Chapitre 29. Un ange en enfer. Luctor et Emergo. Je lutte pour ne pas me noyer. Entrepôt de Coney Island, 5h du matin. Glacé et humide, le réduit obscur baignait dans une odeur de pourriture. Les deux mains menottées à la conduite, les pieds ligotés par le fil en nylon, Alice tira de toutes ses forces sur ses chaînes dans l'espoir de faire céder la tuyauterie rouillée. Mais la canalisation était solide, et la jeune fille s'écroula sur le sol mouillé. Un sanglot de désespoir lui déchira la gorge, mais resta étouffé par le scotch. « Ne pleure pas !» Son corps était secoué de frissons. Le froid brûlait tous ses membres, mordant sa peau, pénétrant jusque dans ses os. Les bracelets en acier meurtrissaient la chair de ses poignets, provoquant une douleur atroce qui irradiait jusque dans sa nuque.
« Réfléchis !»
Mais le froid et le stress rendaient toute concentration difficile. Un sentiment d'angoisse et d'impuissance lui barrait la poitrine. Un couinement monta derrière le lavabo poisseux. Alice leva la tête pour apercevoir le museau d'un rat de la taille d'un chaton. À nouveau, un cri bref s'étrangla dans son gosier. Aussi effrayé qu'elle, l'animal se faufila le long du mur opposé et se cacha sous le lit de camp.
« Reste calme !»
Elle ravala ses larmes, essaya d'ouvrir les mâchoires, mais le Chatterton l'asphyxiait, lui en serrant fermement la bouche. Elle réussit néanmoins à glisser sa langue sous l'un des rebords de son bâillon et, avec ses incisives, rongea un bout du ruban adhésif jusqu'à parvenir à libérer sa lèvre inférieure. Elle inspira profondément plusieurs bouffées d'air vicié. Elle respirait mieux, mais malgré la faible température, elle sentait ses pulsations cardiaques qui s'accéléraient. Mes médicaments. Elle prit soudain conscience qu'elle n'allait pas pouvoir suivre son traitement. Depuis qu'elle avait subi sa greffe cardiaque, son sac était une véritable armoire à pharmacie. Elle vivait presque normalement, à condition d'absorber de façon stricte un cocktail médicamenteux très élaboré. Pilules anti-rejet, bien sûr, mais surtout médicaments anti-hypertenseurs et anti-arythmiques pour lutter contre son hypertension artérielle. Son médecin l'avait souvent mise en garde. Ne pas prendre ses cachets pouvait lui bousiller complètement les reins en quelques jours, voire en quelques heures. Le processus pouvait se déclencher n'importe quand, surtout en cas de déshydratation. Justement, sa gorge était sèche et irritée. Il fallait qu'elle boive pour éviter que la capacité de filtration de ses reins ne diminue. À quatre pattes, les mains toujours entravées, elle réussit à se mouvoir le long du tuyau jusqu'au lavabo, mais le robinet était trop haut. Portée par un nouvel élan, elle contracta ses muscles et avec une force insoupçonnée, essaya à nouveau de faire céder la canalisation. Elle dut pourtant y renoncer très vite. À chaque poussée, les mandibules acérées des menottes entaillaient sa chair jusqu'au sang. Abandonnant le combat, elle se laissa glisser contre le mur. Couchée sur le sol, elle avait l'impression de n'être plus qu'un animal enchaîné, soumis au bon vouloir de son maître. Désemparée, elle se résolut à laper l'eau croupie qui se hintait du plancher. Dans le coin opposé de la pièce, le rat la regardait. Tribeca, 8h du matin. Le soleil s'était levé dans un ciel de cristal. Sous le choc des révélations de Francesca, Jonathan sortit de l'Excelsior un peu sonné. Il remonta le trottoir jusqu'à la Smart de Claire. Il se mit au volant et démarra en direction de l'East Village, où il avait donné rendez-vous à Madeleine. Il hésita à l'appeler pour s'assurer qu'elle avait bien trouvé son mot, mais se dit qu'elle dormait peut-être encore. En s'arrêtant à un feu rouge au début de Little Italy, il regarda machinalement dans son rétroviseur et, à son grand étonnement, aperçut à nouveau les lignes fluides et élégantes de la Ferrari noire dans la file de droite, derrière lui. Étrange. Il fronça les sourcils pour en être certain. Impossible de se tromper, c'était bien la même voiture au capot galbé, au phare caréné et à la calandre féroce qui lui donnait un côté reptilien. Il se retourna. Cette fois, le cabriolet resta immobile, mais le soleil qui se reflétait sur le pare-brise éblouissait Jonathan, l'empêchant de distinguer le visage du conducteur. Il voulut mémoriser le numéro d'immatriculation du Spider, mais, à sa grande surprise, la voiture n'avait pas de plaque. Le feu passa au vert. Un coup de klaxon l'obligea à redémarrer et à dépasser le carrefour. Lorsqu'il put enfin jeter un nouveau coup d'œil dans son rétro, le mystérieux bolide avait disparu. Entrepôt de Coney Island. Des bruits de pas. Alice ouvrit les yeux, émergeant en sursaut du sommeil précaire qui avait fini par l'emporter. Quelle heure était-il? Combien de temps était-elle restée inconsciente? 5 minutes ou 5 heures? Le froid la faisait grelotter. Elle avait des fourmis dans les jambes et les bracelets des menottes lui tranchaient les poignets. Elle essaya de se mettre debout, mais y renonça. À présent, elle se sentait trop faible pour chercher à se débattre. La porte s'ouvrit dans un grincement et la silhouette immense de Yuri apparut dans l'embrasure. « Sutchka !» s'énerva-t-il en constatant qu'elle avait rongé son bâillon. Il l'attrapa par les cheveux, mais elle l'implora.
« Il me faut de l'eau. Je n'ai pas mes médicaments. Je risque de... »«
Ferme-la !»
Il la tira violemment en arrière, lui arrachant une poignée de cheveux. Elle comprit qu'elle avait intérêt à se taire. Le russe sembla se calmer. Il approcha son visage du sien, respirant le parfum de son cou, caressant sa joue de ses gros doigts poisseux. Alice sentit son souffle près de sa bouche et ne put s'empêcher d'afficher son dégoût. Elle tourna la tête. C'est alors qu'elle aperçut le caméscope qu'il tenait dans la main. L'ombre noire et épaisse de Yuri se détacha sous le néon blafard.
« Tu auras ton eau, » promit-il. « Mais avant, on va faire un petit film, tous les deux. »